Moi, donc Éric Lailly, et donc je suis membre de l'équipe de campagne de Nathalie Arthaud, qui se présente pour faire entendre le camp des travailleurs.
Quelle est votre position concernant les OGM, les pesticides et les perturbateurs endocriniens?
Là encore, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Les OGM, en tant que tels, vous savez, finalement, la sélection des espèces animales et toute l'agriculture, c'est une forme de sélection génétique, empirique. Les OGM, en tant que tels, que ces modifications soient faites de façon plus directe, pourquoi pas. Après, quand c'est entre les mains d'un groupe comme Monsanto, qui utilise ça pour imposer et d'une part qu'on achète ces semences immodifiables et ensuite les pesticides qui vont avec, c'est ça là qui est un problème. Les pesticides en tant que tels, vous savez, pendant des siècles, les récoltes étaient ravagées par des tas de rongeurs, de toutes sortes de façons, en provoquant des famines. En tant que telle, la réponse pesticide, elle a pu représenter un progrès. Le problème, c'est que là encore, Bayer, Monsanto, l'industrie agro, l'agro-business, ne se préoccupe pas de la santé publique, ils se préoccupent de la santé de leurs actionnaires en premier. Donc là encore, le problème, c'est de mettre ça sous le contrôle, qu'il y ait de la transparence, qu'il n'y ait pas de... Voilà, il faut supprimer les brevets. Tout ça, purement et simplement, les brevets ils protègent pas les chercheurs, les brevets ils protègent les grands groupes qui les achètent. Et d'ailleurs les brevets intéressants sont enterrés, les brevets profitables sont au contraire achetés par ceux qui ont les moyens, par les banques au final. Donc c'est le problème du brevetage, c'est le problème du contrôle, de la transparence, du secret industriel dont on réclame la suppression, sous le contrôle en premier lieu d'ailleurs des salariés et des consommateurs, des usagers.
Justement, êtes-vous satisfait de la réglementation actuelle et pensez-vous qu'il faille l'étendre à d'autres produits chimiques?
Les réglementations, elles sont le résultat d'un intense lobbying et parfois les directives riches et autres résultent finalement plus des rapports de force des industriels et de leur soutien. Oui, en tout cas, nous, on défend le principe de précaution et le principe de précaution, mais à condition qu'il soit mis en œuvre par le bas. Et on ne fait pas confiance de ce point de vue-là dans les institutions. On en parlera sans doute à propos de la santé, mais enfin les organismes censés vérifier que les médicaments mis sur le marché ne sont pas mortels, ils sont noyautés, ils sont soumis à des pressions. Voilà, donc c'est un problème d'abord et avant tout de qui l'a fait appliquer la législation. Un certain nombre, vous savez, dans un autre domaine, le groupe Total a été responsable de plusieurs dizaines de morts et des dizaines de blessés avec l'explosion à Toulouse sur son site en 2001. 15 ans plus tard, ils ne sont toujours pas condamnés. La loi, ils s'assoient dessus parce qu'ils ont des armées d'avocats qui leur permettent de le faire. Donc la législation ne résout rien s'il n'y a pas un moyen d'imposer qu'elle soit mise en œuvre. Et donc un rapport de force. Et sans rapport de force, tout ça, c'est un petit peu du baratin.
Quelle est votre position concernant le principe de précaution?
Je vous ai répondu que oui, on est pour le principe de précaution. Mais là encore, qui vérifie? À qui on fait confiance? De quelle façon vérifier que ne pas mettre en œuvre telle ou telle technique, procédé, molécule? Bon, pour ça, il faut que les données soient rendues publiques et que ce ne soit pas exclusivement des experts. En plus soumis là aussi à des lobbying qui a la capacité de décider. Le principe de précaution, il suppose pour être réellement mis en œuvre une large communication et là encore la suppression du... Vous savez, le secret de recherche, le secret industriel, on nous présente ça comme absolument vital pour face aux concurrents, pour préserver un marché potentiel, voire l'emploi. Mais ça, vous savez... Les vrais concurrents, ils sont au courant parce qu'ils font appel soit aux mêmes chercheurs, soit aux mêmes sous-traitants, etc. Et les seuls qui ne sont pas au courant, par contre, c'est la population, c'est les salariés, etc. Donc, pour que le principe de précaution puisse être mis en œuvre, il faut la suppression du secret et du brevet.
Comment, selon vous, prévenir les scandales sanitaires liés à l'industrie pharmaceutique?
Vous savez, l'actualité récente ou plus lointaine montre que... Il y a bien à faire. Hein, l'affaire du médiateur, il a fallu le combat personnel de Irène Frachon. Un combat, et justement, elle a, elle a, même l'organisme officiel qui aurait dû l'aider à tirer la sonnette d'alarme lui a au contraire mis des bâtons dans les roues. Hein, il a fallu qu'elle fasse des enquêtes, qu'elle mette en œuvre, en tout cas, des scientifiques d'un petit hôpital de province pour convaincre qu'elle trouve le soutien, la complicité, y compris de petites mains de la sécurité sociale pour pouvoir réussir après des années de combat. À faire retirer le médiateur du marché. Donc c'est là où on voit que toutes les lois censées protéger, en réalité, elles ne sont pas mises en œuvre s'il n'y a pas le combat de gens déterminés. Donc il faut que des gens comme Irène Frachon, les lanceurs d'alerte de toutes sortes, ils soient encouragés, ils soient protégés au lieu qu'on leur mette des entraves. Et je signale au passage que Irène Frachon a gagné le combat pour faire retirer le médiateur du marché, mais le groupe Servier ne paye toujours pas ses victimes, ne les indemnise pas. Et pourtant, il a été, c'est lui qui est entièrement coupable de plusieurs centaines de morts.
Comment, selon vous, faudrait-il financer la santé publique ?
Alors, la santé publique, déjà, le premier problème, si on parle de la sécurité sociale, par exemple, qui finance... premier problème, c'est que si on réduisait considérablement le chômage en répartissant le travail entre tous, en maintenant des salaires corrects, ça augmenterait mécaniquement les cotisations. Donc ça, c'est déjà une source de revenus. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure du crédit impôt recherche. Un groupe comme Sanofi, qui est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques français et mondial, vient de verser 6,5 milliards d'euros à ses actionnaires en dividendes. Bon, le même groupe reçoit de l'argent public au titre du crédit impôt recherche. Bon, ce même groupe vend des médicaments hors de prix qui facturent à la sécurité sociale. Donc là, il y a une niche d'argent. Il faut baisser le prix des médicaments, il faut que ce soit produit à prix coûtant. Produire des médicaments dans une société digne de ce nom ne devrait pas être une source de profit, pas plus que distribuer de l'eau, de l'électricité ou de l'énergie en général. Il faut que tous ces moyens-là qu'on produise à prix coûtant, mis en œuvre pour satisfaire les besoins de la population. Donc il faut prendre sur Sanofi, c'est 6 à 7 milliards de bénéfices par an depuis au bas mot 10 ans. Donc on a de quoi financer largement la santé publique.
Selon vous, comment organiser la recherche scientifique concernant les problématiques de santé ?
Là encore, je crois que c'est un petit peu réponse similaire à la discussion sur l'énergie. Il faut que cette recherche soit d'une part publique, pas privée, qu'elle soit sortie du lobbying et même de du financement privé. Enfin, les labos aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner sans subvention, sans mécène, c'est pas des mécènes d'ailleurs justement, le financement il se fait pas. Je crois que le budget du CNRS, entre un chiffre que j'ai en tête, entre 2004 et 2014, il a baissé de 26 ou 27%. Hein, donc il y a eu des coupes sombres, il y a eu d'ailleurs des mobilisations de chercheurs sur cette question-là. Je crois que ça représente 160 millions de baisses. C'est considérable. Le crédit impôt recherche qui est donné par l'État, c'est donc une baisse des impôts des sociétés au titre de la recherche, c'est 6 milliards d'euros par an. Donc voilà un moyen de financer la recherche. Et c'est pour rien tout ça. Hein, parce que par exemple, le groupe Sanofi, qui est un des principaux bénéficiaires et un des principaux groupes dans la santé, a supprimé les emplois de chercheurs. Donc y compris cet argent-là, ça a été au détriment même de l'emploi et de la recherche. Donc il faut que tous ces financements soient utilisés dans des labos et sous le contrôle des labos publics. Par ailleurs, avec des possibilités de faire des recherches sans projet à très court terme qui ne sont financés que s'il y a une finalité visible. La recherche demande du temps long, demande de ne pas avoir une obligation de résultat, d'ailleurs, en tout cas immédiate. Et ça, c'est antinomique avec la façon dont c'est de plus en plus organisé aujourd'hui.
Quelle est votre position concernant la PMA et la GPA ?
On est plutôt pour la PMA et contre la GPA, dans la mesure où la GPA, dans une société où tout se vend, ça nous ouvre la marchandisation du corps, le fait de payer quelqu'un pour... Maintenant, ces questions-là sont délicates, parce qu'il n'y a pas toujours de l'argent non plus. Il y a aussi voilà, des relations humaines, d'échanges, enfin, qui sont pas marchandisées toujours. Le problème, c'est que dans une société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, où c'est la loi du fric qui domine tout, il faut quand même être prudent et encadrer tout ça. Par contre, il n'est pas question que ça soit encadré par les églises en général, par les religieux, et que dans les comités d'éthique, finalement, le côté scientifique croule sous les pressions morales, religieuses et autres, et ça nous pose des problèmes.
Quelle place, selon vous, consacrée à la bioéthique dans la recherche scientifique ?
Voilà, c'est dans le fil, le droit fil de tout ce que j'ai un petit peu développé. On discute de la bioéthique, mais on ne discute pas du biofric. Hein. Le vrai problème, il est là. Il est qu'aujourd'hui, toutes les décisions, elles sont toujours mues par combien ça va rapporter. Voilà, donc après, à l'inverse, la bioéthique, elle sert aussi de frein. Je reviens à la question précédente, parce que les choses sont entremêlées. Il y a toute une bagarre, je sais pas, sur la recherche sur les cellules souches, pas cellules souches. C'est quelque chose qui est délicat, genre de faire la part entre justement un principe de précaution d'une certaine façon dans ces domaines-là pour éviter que pour la recherche du profit on fasse n'importe quoi, et d'un autre côté que tous les progrès réellement scientifiques servent à l'humanité. Et le vrai problème, c'est la confiance, en fait. C'est la confiance dans qui décide, dans qui a ça entre les mains. Et pour ça, toutes ces questions-là, il ne faut pas que ce soit des groupes privés qui peuvent peut-être jouer les docteurs Frankenstein, mais il faut que ce soit public et que ce soit qu'il y ait une publicité importante, qu'il n'y ait pas de tabou sur toutes ces questions-là.
On va passer à la troisième thématique qui concerne la société numérique et plus largement les nouvelles technologies.